Il est 8 heures du matin, un agent d'entretien entre dans la chambre 112. Le résident ne parle plus depuis des semaines. Et pourtant, bah, simplement en ouvrant les rideaux d'une certaine façon et en allumant une radio précise, cet agent vient de prodiguer un soin de fin de vie essentiel. Comment c'est possible, ça ?
Ouais, c'est étonnant. C'est ce qu'on appelle l'expertise de l'invisible, en fait.
Ah, l'expertise de l'invisible.
C'est ça. C'est pas du tout un acte médical technique, hein, mais c'est vraiment le cœur des recommandations officielles sur l'accompagnement de la fin de vie en EHPD qu'on regarde aujourd'hui.
Et c'est justement tout l'enjeu de cette plongée au cœur de ces textes, surtout pour les équipes d'hébergement et de soins qui nous écoutent là pendant leur réunion.
Exactement.
L'idée, c'est pas de lire un manuel rébarbatif, mais de voir comment ces documents viennent enfin valider ce qui se fait déjà sur le terrain tous les jours, en fait.
Oui, parce que ce sont vraiment ces petits actes du quotidien qui construisent une fin de vie digne. Et les documents insistent énormément sur l'anticipation.
D'accord.
Le fait de recueillir les souhaits de la personne quand elle va encore bien, pour savoir précisément ce qui la réconforte.
En lisant cette partie, une image m'est venue en tête. C'est l'idée que l'équipe devient la mémoire du résident.
C'est une super métaphore. Ouais.
On retient qu'il prend son café noir, par exemple, ou qu'il déteste les portes fermées.
Bah, les textes appellent ça la mémoire de substitution. Et c'est un concept hyper puissant. Parce que quand la parole disparaît, c'est cette mémoire qui prend le relais.
Donc les professionnels les plus présents ont un rôle clé.
Absolument. Et ce qui est marquant dans ces recommandations, c'est qu'elles donnent un vrai rôle clinique à ceux qui passent le plus de temps dans les chambres.
Les aides-soignantes, les agents de service.
Voilà. Ce sont eux les garants de cette identité.
Mais du coup, comment une observation aussi informelle, du genre « il aime avoir la porte entrouverte », comment ça se transforme en véritable outil médical quand la situation se dégrade ?
Eh bien, parce que lorsque le résident ne peut plus dire « j'ai mal » ou « je suis angoissé », ces micro-détails servent de boussole.
Ouais, je vois.
Un changement soudain dans ses petites habitudes, un repli sur soi, un corps qui se crispe quand on fait le lit, bah ça devient le premier signal d'alarme pour détecter une douleur silencieuse.
C'est fou. Mais cette observation ultra fine, elle pose d'ailleurs un vrai cas de conscience. Enfin, quand on arrive aux limites du médical.
C'est-à-dire ?
Sur un point précis dans le texte. Quand un résident arrête de manger ou de boire, notre instinct de soignant, il s'affole.
Ah oui, bien sûr.
Ne pas forcer quelqu'un à s'alimenter, on a l'impression que c'est un abandon, non ?
Bah, c'est une réaction très humaine. Pendant toute notre vie, nourrir, ça veut dire maintenir en vie.
Exactement.
Mais la physiologie nous montre qu'en fin de vie, le mécanisme s'inverse, en fait.
Ah bon ?
Oui. Le métabolisme ralentit considérablement. Le corps n'a tout simplement plus l'énergie pour digérer.
Attends, donc... si on force l'hydratation avec une perfusion, par exemple, on pense bien faire, mais on risque d'aggraver les choses.
Totalement. Si on injecte des fluides que le corps ne peut plus gérer, ils vont s'accumuler.
Oh là là !
Notamment dans les poumons, oui. Et ça crée une sensation d'étouffement qui est très angoissante. L'acharnement devient source d'inconfort.
C'est terrible.
Le vrai soin, paradoxalement, c'est de lâcher prise sur l'alimentation et de privilégier l'hydratation des muqueuses.
Donc des soins de bouche réguliers, juste humidifier les lèvres.
Voilà, c'est ça. On remplace la technique par le confort.
D'accord. Et ce respect, il s'étend jusqu'après le décès, avec la toilette mortuaire qui est vécue comme un ultime au revoir.
Tout à fait.
Mais les textes vont plus loin. Ils exigent d'inclure toute l'équipe dans ce processus de deuil. Sauf que dans la réalité, les agents de service ou les veilleurs de nuit sont souvent exclus des réunions de transmission.
Et c'est une faille majeure que ces recommandations tentent de corriger, justement. L'attachement à un résident, ça n'atteint pas du diplôme ou des horaires de travail.
C'est sûr.
Quand on exclut une partie de l'équipe de ces temps d'échange, on isole des individus avec leur tristesse. Et cet isolement, c'est le premier carburant de l'épuisement professionnel.
Mais comment le simple fait d'intégrer tout le monde dans un rituel ou une réunion peut physiquement empêcher cet épuisement ?
C'est un mécanisme purement psychologique. En prenant juste 5 minutes en équipe pour valider qu'un décès est douloureux pour tout le monde, le cerveau enregistre que cette tristesse est légitime.
Ah, le deuil est partagé.
C'est ça. C'est véritablement le groupe, par cette validation collective, qui agit comme un bouclier émotionnel pour l'individu.
C'est super fort. Donc pour résumer un peu cette plongée dans l'invisible, le soin de fin de vie, c'est pas juste un protocole médical.
Non.
C'est observer les détails pour devenir la mémoire du résident, comprendre la physiologie pour remplacer l'acharnement par le confort.
Ouais.
Et surtout se protéger les uns les autres en équipe.
Exactement. Ce sont vraiment ces petits riens qui font absolument tout.
Eh bien, c'est là que notre rôle s'arrête et que la discussion doit continuer entre vous. Pensez à un accompagnement de fin de vie qui s'est bien passé. Qu'est-ce qui a fait la différence ?